Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce qui ressemble à un nouveau règlement de compte à Marseille. Un homme a fait éruption hier soir dans un gymnase avant de tirer.
La victime jouait au football, elle a été abattue d'une balle dans la tête. Illustration d'une violence qui n'a plus de limite. Nous serons à Marseille dès le début de ce journal. La fin du régime spécial à la SNCF. Avant même la réforme des retraites, le statut des cheminots disparaîtra dès le 1er janvier. Et vous l'entendrez, les nouveaux entrants n'ont pas l'air d'en faire toute une histoire. Le ministère de la Culture envisage de supprimer l'aide à Gabriel Matzneff, l'écrivain accusé de pédophilie, 8000 euros par an. De quoi s'agit-il? On vous explique tout cela. À suivre également, dans les coulisses du Fouquet's, le prestigieux restaurant parisien, symbole du chic et du luxe, nous a ouvert ses portes. Et puis c'est un plat dont on raffole ou que l'on déteste, notamment en cette période de fête, les escargots. Les Français en consomment 16 000 tonnes par an. Visite. Ouais, quand même. Visite d'un élevage en fin de journal.
La météo, Marina Giraudot.
Eh bien, une fois les brumes et brouillards dissipés, c'est le soleil qui s'imposera sur le pays. Beaucoup de gelée ce matin, mais des températures en hausse cet après-midi avec ce soleil. 5 à Lyon, il fera 8 à Paris, 12 à Bordeaux et 15 degrés à Nice.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Deux fusillades en un week-end à Marseille. En cette période de fête, malheureusement, la trêve n'existe pas. Samedi, un homme a tiré sur trois personnes avant de prendre la fuite dans le quartier de la Belle de Mai. Hier soir, c'est dans un gymnase qu'a eu lieu ce qui ressemble vraisemblablement à un règlement de compte. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos correspondants à Marseille. Vous êtes sur place dans le 14e arrondissement, dans ce quartier où a eu lieu la fusillade. Plusieurs personnes jouaient au football hier soir quand un homme a fait irruption.
Effectivement, c'était en début de soirée, une dizaine de personnes jouaient au football dans ce petit gymnase municipal qui abrite seulement un terrain de sport au cœur d'une cité sensible. Le tireur a fait irruption casqué, armé d'un fusil d'assaut. Il a ouvert le feu et touché mortellement l'un des participants, âgé de 31 ans. Un autre est blessé aux jambes. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. 13 douilles de calibre 7,62, le calibre de la Kalachnikov, ont donc été retrouvées sur place dans ce gymnase, situé à moins de 100 mètres de l'école de la police nationale dans la cité de la Paternelle. Un quartier qui est déjà aux aguets ce matin. Les choufs, les guetteurs des trafiquants de drogue ont monté la garde toute la nuit autour de feux de camp. C'est donc la thèse du règlement de compte qui est privilégiée par les enquêteurs, notamment parce que la victime a été ciblée dans un lieu fermé, puis exécutée dans ce qui ressemble à un guet-apens.
Merci Hugo Hamelin depuis Marseille pour RTL.
RTL Matin, 8h03.
Ça va mieux à la RATP, hein. C'est toujours aussi compliqué. En revanche, à la SNCF.
À Paris, deux lignes de métro seulement resteront fermées ce lundi, la 7 bis et la 13. Attention, néanmoins, la plupart fonctionnent au ralenti. À la SNCF, en revanche, après une amélioration ce week-end, le trafic est de nouveau très perturbé. Un TGV sur 2, 4 TER sur 10 et un Transilien sur 4. Alors qu'on entre aujourd'hui dans le 26e jour de grève et que le bras de fer semble se durcir encore un peu plus entre le gouvernement et la CGT, qui refuse catégoriquement cette réforme des retraites. Pourtant, le syndicat le sait dès le 1er janvier, et quelle que soit d'ailleurs l'issue de la réforme, le statut des cheminots, le fameux régime spécial dont ils bénéficient, n'existera plus. Une disparition actée l'an dernier, les nouveaux entrants à la SNCF n'y auront plus accès. Et pourtant, cela ne semble pas décourager les nombreux postulants, comme a pu le constater Eric Vanier.
La SNCF n'a pas noté une baisse du nombre de candidatures. Les jeunes qui envoient ou déposent leur curriculum vitae se préoccupent peu en fait de ce statut voué à disparaître. C'est le cas de Loïc.
Personnellement, ça ne joue pas du tout. Ce qu'on cherche, c'est d'abord une formation avant d'avoir des privilèges, entre guillemets.
Et c'est vrai qu'entre 20 et 25 ans, ce que l'on recherche avant tout, c'est un premier emploi, un job qui plaît dans un secteur qui ouvre des perspectives, une insertion professionnelle et pas forcément un statut, dit Fabien, candidat cheminot.
Ça joue un peu, mais je trouve que la SNCF, c'est quand même une boîte, un secteur d'avenir. Bon, les statuts, c'est très bien. Mais comme j'ai entendu dire, il y aura peut-être d'autres avantages. Franchement, moi, ça me dérange pas.
Mylène aussi est prête à entrer à la SNCF, même sans ce fameux statut qui, déjà pour elle, fait partie de l'histoire ancienne.
Si c'est pour avoir un statut et pas forcément être content de travailler tous les jours, je vois pas l'intérêt. Et j'ai travaillé en Angleterre. Vous savez, là-bas, c'est quand même assez flexible, voire trop flexible. Je suis déjà au-delà de tout ça, en fait.
En tout cas, dès le 1er janvier, ce ne sera plus la peine d'en parler lors des entretiens d'embauche. Le statut ne sera plus qu'un souvenir.
Les explications d'Éric Vanier.
Il dénonce des attaques injustes à son égard. C'est la première fois que Gabriel Matzneff prend la parole depuis le début de la polémique.
L'écrivain âgé aujourd'hui de 83 ans est accusé de pédophilie par l'écrivaine Vanessa Springora qui publie son livre jeudi « Consentement », un ouvrage dans lequel elle décrit l'emprise qu'avait à l'époque Matzneff sur elle. Elle avait 14 ans, il en avait 50. Lui parle ce matin dans les colonnes du Parisien d'une belle histoire d'amour et ne comprend pas les critiques. Pourtant, depuis le début de l'affaire, de larges extraits de ses romans sont exhumés et ils sont sans équivoque. Matzneff y raconte ses relations sexuelles avec de très jeunes enfants. Hier, le ministère de la Culture a décidé de réagir. Franck Riester, le ministre, envisage de supprimer la pension dont l'écrivain bénéficie, 8000 euros par an versés par le Centre National du Livre, le CNL, un organisme d'État, Thomas Dulin.
Oui, le Centre National du Livre est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour mission d'encourager la création et la diffusion d'ouvrages à travers différents dispositifs. Dans le cas de Gabriel Matzneff, il s'agit d'une allocation annuelle versée aux auteurs pour, je cite, « pallier les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie d'auteur dont l'œuvre a incontestablement contribué au rayonnement de la littérature française ». Le montant de cette allocation varie entre 3 et 24 000 euros par an. D'après l'hebdomadaire L'Express, depuis 15 ans, Gabriel Matzneff toucherait chaque année entre 7 et 8 000 euros versés donc par le CNL. Dans un tweet, le ministre de la Culture, Franck Riester, a demandé au centre de lui fournir toutes les précisions sur cette situation avant d'affirmer qu'il prendrait ses responsabilités.
Explication de Thomas Dulin pour RTL. Aux États-Unis, nouvelle attaque antisémite. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de New York, un homme armé d'une machette s'est introduit au domicile d'un rabbin qui célébrait Hanouka avant de poignarder 5 personnes. 2 sont dans un état critique. Début décembre, c'est une fusillade dans une épicerie cachère qui avait coûté la vie à 6 personnes. Et puis en Chine, un chercheur vient d'être condamné à 3 ans de prison. Il avait mis au monde l'an dernier les premiers bébés génétiquement modifiés. 2 jumelles dont l'ADN avait été trafiqué pour les rendre résistantes au virus du sida dont était infecté leur père. Des manipulations génétiques qui avaient provoqué à l'époque un scandale planétaire.
RTL Matin, 8h07.
C'est une brasserie parisienne qui, à elle seule, symbolise le luxe, la richesse et parfois l'exubérance.
Le Fouquet, situé 99 avenue des Champs-Élysées, adresse prestigieuse où l'on vient parfois manger, parfois pour être vu, paroxysme du bling-bling pour les gilets jaunes qui avaient saccagé le restaurant en mars dernier, et dire qu'à l'époque, le Fouquet n'était qu'un troquet pour cocher. Aujourd'hui, le bar de luxe nous a ouvert ses portes. Immersion dans l'un des lieux les plus prestigieux de Paris, signé Jacques Seret.
À l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V, le tapis rouge nous conduit vers l'une des plus célèbres brasseries de la capitale.
Bonjour, bienvenue au Fouquet.
Géraldine Dobie, directrice générale de l'établissement, nous ouvre la porte dorée, plongée immédiate dans le Fouquet historique qui accueille des clients depuis 1899.
Ici, nous nous trouvons dans la pièce centrale. La boiserie est classée. Vous avez ici tous les portraits à court sur les murs partout. Vous avez Catherine Deneuve. Nous avons aussi toutes les tables préférées de personnes qui ont fréquenté le restaurant.
Vous avez des plaques.
Des plaques parce que c'était les tables préférées de ces artistes. Que ce soit Marcel Pagnol ici, nous avons une autre là-bas, Edith Piaf. Nous avons toute une longue histoire avec la culture française dans cette maison.
Et aujourd'hui encore, la tradition perdure. Chaque client habitué à son propre rond de serviette.
Avec leur nom gravé sur cette rond de serviette, comme ça quand ils ont réservé leur table, ils sont chez eux. Nous voyons un exemple ici.
Ces rondes de serviette, ils sont rangés quelque part.
Ah oui, je vais vous montrer. Nous en avons beaucoup.
Plusieurs centaines soigneusement rangées dans une armoire verrouillée.
Vous voyez l'armoire avec toutes les ronds serviettes rangées en ordre alphabétique.
Y a-t-il des noms connus, justement?
Nous avons des personnalités, oui, en effet, qui ont leur rond de serviette, mais la discrétion aussi, ça fait une grande partie de notre maison.
La discrétion, une marque de fabrique de l'établissement, mais exceptionnellement, Géraldine Dobie accepte de nous conduire à l'étage dans l'un des salons privés du Fouquet.
Donc ici, nous sommes dans la salle historique. Donc vous voyez ici, nous avons le UGC, juste en face là, le cinéma. Et de cette table ici, nous voyons directement le nombre de personnes qui rentrent dans le cinéma. Et nous Nous avions toujours les grands producteurs de cinéma qui venaient le premier jour d'un film. Et comme ça, les producteurs, ils voyaient si le film, ils avaient beaucoup de succès. Ils jugeaient ça par le nombre de personnes qui attendaient. Et c'est grâce à ça que la tradition s'est installée ici au Phuket.
C'est ainsi que le Phuket s'est intimement lié à l'histoire du cinéma. Chaque année, l'établissement accueille le dîner de gala des Césars.
Immersion de Jacques Serret au Phuket pour RTL.
J'ai l'impression qu'il a passé un bon moment. Enfin,
je crois aussi.
Mais oui. Alors, en rugby, Toulon arrache le match nul sur le fil face à Toulouse, 13 partout.
Hein. Match de clôture de la deuxième journée du top 14. Les autres résultats, victoire 40-8 pour le Stade Rochelet face à Agen. Victoire également 39-22 pour Clermont face à Castres. La section paloise s'est inclinée en revanche après sa défaite 23-27 face au leader Bordeaux-Bègles. On parle de Paul Pogba ce matin, le champion du monde qui a passé le week-end à Tours. Le milieu de terrain de Manchester United et ses frères jumeaux ont organisé hier un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée, pays africain dont ils sont originaires. Il s'exprime rarement, le champion du monde. Cette fois, c'était pour la bonne cause. Écoutez-le.
Avant d'être des footballeurs, on est des hommes, on est des humains, on est des enfants. Et voilà, ma mère qui est là, qui est guinéenne, et mon père aussi qui était guinéen. C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres, de nos parents. Donc on veut faire quelque chose de bien. En Guinée, c'est pas l'Europe. Il y a beaucoup de difficultés. L'eau, la nourriture, l'éducation, l'hygiène, les hôpitaux. Ce petit match va aider beaucoup de personnes. C'était important pour moi d'être ici et voilà, de vivre ce moment.
Un Paul Pogba au micro RTL de Christian Panvert.
On les appelle les héliciculteurs et leur spécialité, eh bien, ce sont les escargots.
L'élevage des escargots comestibles, hein, mais dont les Français se régalent en cette période de fête. Consommé par 6 ou par 12, le plus souvent avec du beurre persillé. Il faut aimer, hein, la texture est parfois étrange. Les escargots, c'est toute la vie de ce couple de Parisiens qui a décidé il y a 2 ans de changer radicalement pour élever des gastéropodes dans une ferme du Calvados. Et vous les avez rencontrés, Frédéric Veil.
Voici nos parcs d'élevage pour les escargots.
Oui, c'est ici, à l'air libre, que Victor Perrin élève ses escargots.
Ici, nous avons 900 mètres carrés de parc, ce qui va nous permettre d'élever 200 000 escargots pour arriver et escompter, ramasser environ 120 000 escargots matures. Ça, c'est notre premier métier, l'élevage. Notre second métier, pour pouvoir vivre de notre élevage, il va falloir qu'on cuisine nos escargots. Donc, on est aussi cuisinier.
Et c'est donc dans le laboratoire que ça se passe. Et depuis plusieurs jours, lui et son épouse n'arrêtent pas.
Ouais, là, les fêtes de fin d'année, c'est la course. Hein. Noël, jour de l'an, c'est 50% des ventes. Donc, il faut être armé. Et comme tout se fait à la main, et comme je suis avec ma femme seule en cuisine, c'est long. Bien encoquiller l'escargot. Alors, il y a un sens, il faut le remettre dans le bon sens. Il faut le pousser assez au fond de sa coquille, et ensuite, on va beurrer et on va lisser le beurre pour avoir une belle présentation. Ça va ressembler à ça.
Et ça va ressembler surtout à ce que vous allez mettre au four et déguster sans modération. 16 000 tonnes d'escargots sont consommées chaque année en France.
Avec plaisir, Frédéric Veil pour RTL, et bravo à ce couple d'héliciculteurs. Sachez quand même que sur les 16 000 tonnes d'escargots, 5% seulement de la production est française. C'est pour ça qu'on les félicite. Nos fameux escargots de Bourgogne viennent souvent de Lituanie ou de Roumanie, n'ont pas grand-chose de bourguignon. Escargot de Bourgogne, en fait, c'est le nom de l'espèce, et c'est pas le nom de l'origine ou de l'appellation.
Écoutez, nous avons été parfaitement informés par
des minutes. Tout sur les escargots,
désormais. On fait un bon point de la situation.
Et du coup, je vais vous donner l'heure très lentement.
Bien sûr.
RTL, 8h13.
La déco des fêtes. Avec Laetitia Nallet.
Le réveillon du 31 approche. Avez-vous pensé à la déco? Laetitia Nallet est là pour sauver le plaisir des yeux. Que nous proposez-vous aujourd'hui, Laetitia?
Alors Yves, je vous propose d'essayer de faire du beau tout en respectant la planète, c'est-à-dire une déco responsable avec un petit air vintage. Alors déjà, pour commencer, pas de vaisselle jetable.
Ça, on l'a compris. On sort les vraies assiettes?
Oui, et si on n'a pas le nombre suffisant, eh bien on les loue chez vaissellevintage.com. Tout leur stock a été chiné. Vous allez composer une belle table avec des assiettes dépareillées et vous pouvez même leur rendre la vaisselle sale. Ils se chargent de la plonge.
Ben ça, c'est sympa. Pour la nappe, quelles sont vos propositions?
Tout pareil, pas de nappe jetable. De toute façon, c'est pas très chic. Hein. Donc, on sort sa nappe, mais sa nappe de tous les jours, tiens, ça ira bien. On peut l'atteindre ou pas, car nous allons la sublimer avec des feuilles.
Quel genre de feuilles?
Ah, les feuilles mortes qu'on ramasse à la pelle en ce moment, que ce soit dans les rues ou dans la forêt. Alors, ces fameuses feuilles mortes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les fait sécher, puis on va leur donner un air de fête en les bombant avec de la peinture en aérosol. Alors, attention, je vous conseille de le faire dans une boîte à chaussures. Oui. Les fines projections de peinture s'accrocheront sur les bords de la boîte et pas dans votre maison ni sur votre vêtement. Pour la couleur, Yves, c'est comme vous voulez, du doré, du bleu nuit pour rester dans la tendance 2019, mais la couleur, c'est vraiment comme ça vous chante.
Et ces feuilles mortes colorées, Laetitia, on les étale sur la table ?
Oui, on les parsème sur la nappe et ça, c'est l'effet waouh assuré. Pour les verres ballons ou les coupes à champagne, vous allez les mettre à l'envers. Et puis, vous allez glisser sous le buvant une mini branche du sapin, bombée elle aussi en couleur. Et puis, une petite gourmandise à côté, un chamallow ou un calisson. Alors, c'est leur couleur blanche qui sera intéressante. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Mmh. Et sur le pied du verre, c'est-à-dire au-dessus, vous allez poser une mini bougie ronde. Voilà. Ensuite, je vous propose de sortir vos théières et de les transformer en vases en faisant des petits bouquets pas trop hauts. Et enfin, pour la carafe d'eau, on colle sur une bouteille en verre un morceau saut de dentelle. Ça vous plaît ? Dernière astuce pour votre réveillon vintage. Vous pouvez tendre un drap blanc sur un mur et faire une projection d'une forêt de sapins enneigés ou un défilé de photos de vos invités bébés. Vous allez voir que là, l'ambiance va vite se détendre.
Vous m'avez déstressé, je me sens très bien et on vous retrouve demain pour une autre idée de déco.
À demain.